Vous écoutez, on lit pour vous.
Prochaine station, Femme remarquable. Un texte de Nathalie Collard, paru le 7 mars 2025 dans La Presse. À l'heure où Google fait disparaître de son calendrier toute référence au mois de l'histoire des femmes, l'Université de Montréal lance aujourd'hui une carte revisitée du métro de la métropole qui reconnaît la contribution des femmes à son histoire. Une façon de leur redonner la visibilité qui leur revient. À Montréal, aucune des 68 stations de métro ne porte le nom d'une femme. Aucune. J'étais donc ravie d'apprendre que la métropole, comme Londres, New York et Barcelone, avant elle, auraient enfin sa carte du métro 100% féminine. Je connaissais déjà City of Women, le projet initié par l'autrice américaine Rebecca Solnit. En 2016, en collaboration avec l'écrivain et géographe Joshua Jelly Shapiro, Solnit avait rebaptisé les 472 stations du métro new-yorkais en leur donnant les noms de femmes liées à l'histoire de la ville. Elle avait refait l'exercice en 2022 pour le métro de Londres avec l'autrice Rennie Edo Lodge et l'actrice Emma Watson. L'écrivaine et traductrice littéraire, Chantal Ringuet, a eu l'idée d'entreprendre la même démarche à Montréal, qui devient donc la première ville francophone à participer à ce mouvement. Elle a convaincu l'Université de Montréal d'embarquer dans le projet, auquel a aussi collaboré la Société de transport de Montréal, STM. Ce projet est une belle façon de contribuer à la valorisation de ce que les femmes ont fait dans la ville, d'autant que l'égalité homme-femme est très importante à Montréal, nous dit Chantal Ringuet, écrivaine et traductrice. La chercheuse estime que le moment ne pouvait être mieux choisi pour dévoiler cette carte alternative du métro. On se trouve à un moment difficile de l'histoire pour les droits des femmes, pour la démocratie également, note-t-elle. Ces droits sont sans cesse érodés, fragilisés, effacés. Un monde d'hommes. La toponymie québécoise n'a pas été généreuse avec les femmes. Les principales artères de Montréal honorent majoritairement la mémoire d'hommes, tout comme les autoroutes québécoises qui portent toutes un nom masculin. Jean Lesage, René Lévesque, Maurice Duplessis, Guy Lafleur, etc. Même biais pour les stations de métro, qui nous rappellent l'existence des Jean Talon, Honoré Beaugrand, Henri Bourassa. À croire qu'aucune femme n'a contribué à la vie montréalaise et québécoise. D'une part, les choix pour nommer des rues ou des parcs ont été faits bien avant que les femmes aient accès au droit de vote ou qu'on reconnaisse leur apport dans la ville, observe Chantal Ringuet. Ensuite, poursuit-elle, celles qu'on a reconnues sont souvent très loin de nous. Des religieuses comme Jeanne Mance et Marguerite Dioville, ou la figure de la Vierge pour Notre-Dame. Le projet de Chantal Ringuet et de l'Université de Montréal répare donc de nombreux oublis et il nous permet de découvrir ou de redécouvrir des femmes qui ont marqué la ville par leurs engagements, leurs réalisations ou leur créativité. Parmi les noms choisis pour rebaptiser nos stations de métro, Louise Arbour, Anne-Marie Cadieux, Irma Levasseur, Idola Saint-Jean, Alice Parizeau, Pauline Julien et notre bien-aimée collègue Rima El-Khoury. C'est un comité formé de 7 femmes qui a déterminé qui allait figurer sur cette carte. Ce n'était pas un exercice facile, reconnaît Chantal Ringuet. Il y a seulement 68 stations à Montréal. On a créé quelques duos, ce qui nous a permis d'augmenter à 73 le nombre de femmes honorées. On a aussi déterminé le repère historique de 1831, qui est l'année où Montréal est devenue une entité politique. Les critères? Équilibre entre les générations, les disciplines et les expertises et représentation des différentes communautés montréalaises. On voulait une carte rassembleuse, précise Chantal Ringuet. De grandes oubliées. L'historienne Denise Baillargeon a fait partie du comité d'expertes. Il y a le choix des noms et celui des emplacements, qui n'était pas évident, confie-t-elle. Il fallait qu'il y ait un lien géographique. Par exemple, Mary Two Axe Early, qui a défendu les droits des femmes autochtones, se retrouve à la station Angrignon, qui est la plus proche de Kanawake. Thérèse Casgrain remplace, pour sa part, Henri Bourassa, à l'extrémité est de la ligne orange, un clin d'œil qui fait sourire Mme Baillargeon. Bourassa n'a jamais été un grand défenseur des droits des femmes, souligne-t-elle. S'il y a un nom que l'historienne souhaitait défendre, c'était bien celui de Thérèse Casgrain. Elle a été dans le décor du militantisme féminin et féministe de 1920 à 1980, remarque-t-elle. Elle a touché à tellement de domaines, le droit de vote des femmes, les droits sociaux et économiques aussi. Elle a fait de la politique active, fondé la Fédération des femmes du Québec, été sénatrice. Qu'on soit d'accord ou pas avec ses positions idéologiques, c'est impossible de passer à côté de cette femme qui a consacré 60 ans de sa vie au militantisme. Moi, je dis respect. Quand on pense qu'à Montréal, seuls 2 pavillons d'université, un minuscule parc et un tronçon de rue à Anjou portent le nom de cette grande dame, alors qu'un grand boulevard et une station de métro portent le nom de Pie IX, un pape conservateur né en 1792 qui a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception. À quand une réévaluation des personnages que nous voulons honorer? Justement, l'historienne Denise Baillargeon souhaite qu'on s'approprie cette carte, qu'elle soit le point de départ d'une discussion. Les écoles pourraient l'utiliser pour faire travailler les jeunes afin qu'ils bâtissent leur propre carte, qu'ils rédigent des petites biographies et qu'ils en discutent en classe, suggère-t-elle. Une excellente idée, en espérant que cette carte suscite aussi la discussion à la STM. C'était Prochaine station, Femmes remarquables. Un texte de Nathalie Collard, paru le 7 mars 2025 dans La Presse.
Les piétons sous le poids des mots des coronaires. Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 27 février 2025 dans Le Devoir. Plus de 200 rapports de coronaires ont analysé des morts de piétons sur les routes du Québec entre 2019 et 2024. Viateur Daigneau figure dans cette triste liste. L'homme alors âgé de 80 ans et une personne qui l'accompagnait ont été heurtés le 12 janvier 2019 vers 19h50. Le duo traversait une intersection à Salaberry de Valleyfield où des panneaux rappellent la priorité aux marcheurs. Ils sont alors renversés par une automobile, explique le rapport de deux pages du coroner Paul G. Dionne, déposé en juillet 2019. La formulation aussi étrange que commune, y compris dans les médias, peut donner l'impression d'une faute commise par le véhicule à moteur et non par son conducteur. L'automobile roulait à une vitesse légale, renchérit le texte dans ce sens, autonomisant la machine. Le rapport du Dr Dionne parle d'une « collision autopiéton », mais emploie aussi le mot « accident ». Le terme courant peut amplifier l'impression de déresponsabiliser la faute. Un accident est le fruit du hasard, pas de comportement humain, malheureusement au cœur de la très grande majorité des décès et des blessés sur les routes. L'inattention et l'insouciance sont humaines, l'excès de vitesse tout autant. Le vocabulaire choisi a son importance, pour les proches des victimes comme pour la recherche de correctifs. « Mal nommer les choses ajoute du malheur au monde », dit une célèbre formule. Utiliser le bon terme peut, au contraire, un peu apaiser tout en aidant à mieux comprendre et à expliquer les situations accidentogènes. Après tout, l'objectif du travail du coroner, selon la loi fondatrice de la profession, consiste à rechercher les causes probables du décès dans le but de les prévenir. La neutralité légale. Le Dr Dionne se réfère à la loi sur les coronaires pour faire comprendre les fondements des rapports. L'article 4 stipule que l'enquêteur d'État ne peut, à l'occasion d'une intervention ou d'une enquête, se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle d'une personne. L'objectif est d'identifier les causes probables. Un point, c'est tout. Si je dis que le conducteur n'a pas fait son arrêt et a frappé le piéton, par exemple, j'accuse le conducteur, dit le coroner Dionne à la retraite depuis environ 2 ans. La loi nous interdit d'accuser qui que ce soit. Il y a toute une logique là-dedans. Je peux dire que l'auto a fait telle ou telle chose. Je ne peux pas, moi, écrire que le conducteur n'a pas fait son arrêt obligatoire. Le bureau du coroner renchérit en se référant aux obligations légales balisant les enquêtes. Le responsable des relations avec les médias cite également l'article 4 interdisant de se prononcer sur la responsabilité d'une personne. Ainsi, l'éclairage de la route ou la visibilité de la personne peuvent être des éléments pertinents à mentionner dans les circonstances du décès, écrit au Devoir Jake Lamotta Granato. Marie-Soleil Cloutier, professeure à l'Institut national de la recherche scientifique et directrice au laboratoire piétons et espaces urbains, comprend l'obligation légale. Elle s'étonne tout de même de certaines formulations. Le coroner, son rôle n'est pas de déterminer à qui revient la faute, dit-elle. Nécessairement, il relate des faits. Mais le message parfois qui ressort, sans identifier la faute, met beaucoup de poids sur les agissements des piétons, morts en plus sans pouvoir se défendre. Quand quelqu'un est habillé en foncé ou a des écouteurs et se fait frapper sur une artère avec 3 voies de chaque bord par un camion lourd, est-ce que c'est vraiment les écouteurs, le problème? Les vêtements foncés des piétons tués sont mentionnés 64 fois dans 43 rapports, dont celui cité du coroner Dionne. Qui ne s'habille pas en noir ou en bleu aujourd'hui? 6 dossiers soulignent que la victime portait des écouteurs. Mais alors? Au moins 10% des Québécois vivent avec une déficience auditive permanente et les voitures électriques ne font quasiment plus de bruit. Madame Cloutier recommande d'utiliser un vocabulaire qui prend en considération la vulnérabilité des piétons. Leur faire peser un fardeau de la faute n'est pas approprié pour faire avancer la cause, selon moi, mais ça ne l'est pas plus si on faisait juste pointer l'automobiliste. L'idée, c'est de trouver les causes réelles des collisions, donc avoir un vocabulaire qui est tout aussi neutre selon moi, mais qui replace les choses dans un cadre où les gens font une action pour laquelle il y a des conséquences. L'analyse du décès de la septuagénaire Réjeanne Brin à Drummondville le 27 août 2020, vers 15h40, par le coroner Yvon Garneau, se conclut ainsi. La thèse la plus probable de ce malheureux accident est que la piétonne, pourtant très habituée à la marche, une passionnée selon ses proches, devait passer cette intersection des dizaines de fois par semaine et, on le constate dans différentes sphères d'activité de la vie de tous les jours, une seconde d'inattention de sa part aura suffi pour qu'elle mette le pied trop vite sur la voie empruntée au même moment par la conductrice. Collision ou accident. Les coronaires attendent les conclusions du tribunal dans les cas de poursuites criminelles, par exemple pour conduite dangereuse ayant causé la mort, avant de les insérer dans leur rapport. Les victimes sont nommées dans leurs analyses, les personnes au volant, elles, très rarement. Le docteur Dion avoue même avoir été frustré parfois de constater que les conducteurs impliqués dans une collision mortelle ne recevaient qu'une contravention de quelques dizaines de dollars. Il déplore aussi, comme bien les collègues, que Québec reste la seule province à accepter la conduite avec un taux de 80 mg d'alcool pour 100 ml de sang, 0,08 g, au lieu du 0,05 en vigueur partout ailleurs au Canada. Comme tous les gouvernements précédents, celui de la CAQ refuse de se mettre à la norme internationale, encore plus restrictive dans certains pays. La Norvège applique une règle de 0,02 et la République tchèque interdit carrément de boire et de conduire, 0,00. Reste que les balises légales n'expliquent pas tous les choix. Le terme « collision » apparaît 819 fois et le mot « accident » 636 fois dans les rapports. La National Highway Traffic Safety Administration, agence gouvernementale américaine responsable de la sécurité routière, recommande depuis des décennies d'utiliser le terme « collision »,« crash ». Une campagne publicitaire américaine qui date de 1997 résumait cette perspective par la formule « choc »,« crashes are not accidents ». L'Association des maires contre l'alcool au volant, MADD, selon l'acronyme des États-Unis, milite depuis 1980 contre la conduite avec des facultés affaiblies et offre son aide aux victimes. Nous prônons d'appeler une collision et pas un accident, résume Teresa Anne Kramer, fondatrice il y a 27 ans de la section québécoise de MADD. Les défauts techniques expliquant une collision sont extrêmement rares. Nous recommandons de toujours examiner les responsabilités du chauffeur. Nous trouvons que c'est léser les victimes que de parler d'accident quand on sait très bien que la collision découle d'un choix. C'est toujours une décision personnelle de conduire sa voiture. Madame Kramer fait remarquer que les médias utilisent tout autant le mot « ONI ». Les formulations journalistiques donnent également l'impression de transférer la responsabilité à la machine motorisée plutôt qu'à l'humain qui l'amène. Ce qui donne des phrases comme celle-ci rapportant un accident fatal le 3 février 2025 sur TVA Nouvelles. Chloé Demers venait tout juste de terminer sa journée de travail à la fromagerie des Basques. Alors qu'elle se dirigeait vers l'île Verte, une camionnette aurait dévié de sa voie et percuté son véhicule de plein fouet. L'impact a été fatal. On apprend ensuite que le véhicule en question était volé et que le chauffeur, connu de la police, pourrait faire face à des accusations de conduite avec des facultés affaiblies causant la mort et de conduite dangereuse causant la mort. Il semble bien que ce soit le chauffeur intoxiqué qui ait fait dévier la camionnette pour faucher la vie de la mère de famille, Chloé Demers. C'était « Les piétons sous le poids des mots des coronaires », un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 27 février 2025 dans Le Devoir.
Comment éviter l'inflation liée au mode de vie? Un texte de Ritika Dubé, de la presse canadienne, paru le 18 février 2025 dans La Presse. Choisir de faire votre épicerie dans un marché fermier de spécialité plutôt que dans une chaîne à bas prix ou prendre un taxi au lieu des transports en commun sont quelques-unes des façons subtiles dont vos dépenses peuvent grimper à mesure que vos revenus augmentent. Au fil du temps, ces choix apparemment anodins peuvent conduire à ce que l'on appelle l'inflation liée au mode de vie. Vous avez tendance à dépenser plus à mesure que vos revenus augmentent. Et cela peut nuire à votre résilience financière à l'avenir, disent des experts. Callie Boisvert, conseillère financière chez Raymond James, affirme que lorsque les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils dépensent par rapport à ce qu'ils gagnent, ils peuvent facilement et rapidement ajuster leurs dépenses à la hausse chaque fois qu'ils obtiennent une augmentation de salaire. Ce qui peut commencer par acheter du Starbucks tous les jours, au lieu de préparer votre café à la maison, peut rapidement vous amener à prendre l'avion en première classe, à collectionner des sacs de créateurs et à passer à un véhicule de luxe, dit Callie Boisvert. Si rien n'est fait, Mme Boisvert indique que cela pourrait également entraîner un sentiment de culpabilité de ne pas avoir développé votre valeur nette malgré des revenus plus élevés. Shannon Lee Simons, fondatrice de la New School of Finance, explique que plusieurs facteurs peuvent déclencher une inflation liée au style de vie, comme une augmentation de salaire importante, un nouvel emploi qui modifie les revenus du ménage, ou même une privation constante qui conduit à l'attitude du « peu importe ». Une question de valeur. Des changements majeurs dans la vie, comme avoir des enfants, peuvent également augmenter le coût de la vie et parfois conduire à une inflation liée au mode de vie, ajoute Mme Simons. Par exemple, si tous les enfants vont en camp d'été, vous ne voulez pas que votre enfant soit laissé de côté, explique-t-elle. Vous avez l'impression que vous devez suivre leur rythme et dépenser de l'argent pour des choses qui ne correspondent pas nécessairement à vos valeurs, mais vous le faites quand même parce qu'il y a le style de vie de quelqu'un d'autre en jeu dont vous êtes responsable. Si les dépenses quotidiennes peuvent passer inaperçues au début, explique Mme Simons, les gens perdent la capacité d'économiser de l'argent à long terme lorsqu'ils sont coincés dans un cycle d'inflation lié au mode de vie. Il n'y a pas de fonds d'urgence, pas d'argent de poche, rien de tout cela parce que vous vivez de chèque de paye en chèque de paye, dit-elle, ce qui a un impact sur les plans de dépenses importantes, comme les camps d'été ou les vacances qui sont ensuite reportées sur les cartes de crédit. Mais l'inflation liée au mode de vie n'est pas toujours mauvaise. À mesure que les gens atteignent des étapes financières, ils devraient pouvoir s'accorder une récompense en améliorant leur style de vie, selon Mme Boisvert. Il est important de dépenser de l'argent pour des choses qui apportent de la valeur à votre vie, ajoute-t-elle. Cela peut signifier dépenser de l'argent pour des produits d'épicerie biologique ou partir pour un voyage rêvé depuis longtemps. Il ne s'agit pas de savoir comment vous devriez dépenser votre argent, souligne-t-elle. Il s'agit de vous assurer que vous savez où il va. Comment vous sentez-vous? Où y a-t-il quelque chose que vous voudriez changer? Mme Boisvert suggère d'harmoniser vos dépenses à vos objectifs et vos valeurs. Un examen des dépenses. Pour garder le contrôle de l'inflation liée au mode de vie, des audits et des examens fréquents de vos dépenses sont nécessaires, surtout lorsque de grands bouleversements surviennent dans votre vie. Cela signifie examiner régulièrement les coûts, comprendre où va l'argent et établir un budget. Madame Simons propose de parcourir les relevés bancaires et de cartes de crédit et de mettre en évidence les achats que vous ne vous souvenez pas avoir faits. Par exemple, Madame Simons se remémore une personne de sa clientèle qui a fait cet exercice. Il s'est avéré qu'elle se promenait sans fin dans le centre commercial et dépensait de l'argent pendant sa pause dîner. Cela signifie que c'était super machinal et, parfois, je pense qu'on voit une tendance, dit-elle. Ensuite, examinez de manière critique les domaines dans lesquels vous pouvez réduire de manière durable. Madame Simons met en garde contre le fait de confondre l'inflation liée au mode de vie avec les ajustements du coût de la vie. Votre vie peut coûter plus cher qu'avant, dit-elle, mais cela ne signifie pas nécessairement que vous avez changé votre mode de vie. C'est juste le coût de la vie qui a littéralement augmenté par opposition à l'inflation liée au style de vie. De nombreux Canadiens ont vu leurs dépenses quotidiennes augmenter avec la montée de l'inflation à la sortie de la pandémie. Madame Simons précise que beaucoup n'avaient d'autre choix que de s'adapter à des prix plus élevés, alors que l'inflation liée au mode de vie est une question de choix. Une façon de se protéger contre l'inflation liée au style de vie est de ne pas laisser les augmentations de salaire affecter vos dépenses, suggère Madame Simons. Si votre chèque de paye passe de 2 000 à 2 300 $ essayez de faire comme si ces 300 $ supplémentaires n'existaient pas, conseille-t-elle. Si vous ne vous donnez jamais la chance de les dépenser, vous pourriez en fait vous rendre compte qu'il ne vous manque pas. Madame Boisvert ajoute que la mise en place de virements automatiques vers un compte d'épargne peut également aider à atteindre des objectifs à long terme et à prévenir les dépenses impulsives. Il s'agit de faire un choix, selon elle. Nous sommes toujours confrontés à des choix et vous devez décider à ce moment-là ce qui est important pour vous et ce que cela donne, conclut-elle. C'était « Comment éviter l'inflation liée au mode de vie », un texte de Ritika Dubé de la Presse canadienne, paru le 18 février 2025 dans la presse.